pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Avant la loi du clan ! Avant la loi du clan !
Faites attention, ils vont pas refaire une deuxième loi du plomb, ils en ont déposé une. Mais ils vont faire ça bien plus subtilement et bien plus sournoisement.
2025, une pétition Assemblée nationale réunit plus de 2 millions de signatures contre la loi Duplomb, sénateur au service de l'agro-industrie, et parmi toutes les horreurs prévues par cette loi, ferme-usine, méga-bassine et toujours plus de chimie, dont la fameuse acétamipride néonicotinoïde qui ne tue pas que les abeilles. Herbicides, fongicides, pesticides, quand le poison se termine en cide, c'est qu'il tue. 2026, Duplomb remonte à la charge pour imposer l'acétamipride, mais l'offensive législative des politiques de droite au service de l'agro-industrie ne s'arrête pas là. En ce printemps 2026, au national, on craint une terrible loi dite d'urgence agricole, LUA, et au niveau européen, des directives omnibus qui détricotent les lois de protection de l'environnement, carreau de cancer colère.
Il n'y a pas que la loi Duplomb, il y a la loi d'urgence agricole, il y a aussi le paquet de lois omnibus. C'est un système à bout de souffle qui voit l'être humain s'autodétruire, c'est une sinistre fuite en avant. Dans ces textes, il n'est pas seulement question du droit d'empoisonner l'eau ou les sols, ces textes posent des cadres de régression bien plus graves. C'est le déni de la science, c'est la mise en cause des instances démocratiques, et c'est la criminalisation des lanceurs d'alerte. Je suis en colère enfin, parce que je suis maman, et que je vois venir un moment de bascule. Mais cette colère, dans le collectif, c'est une énergie porteuse, constructive et même joyeuse.
Et il était joyeux ce carnaval anti-Duplomb de ce dimanche 26 avril 2026 à Tours, région centre. Procession qui a rassemblé un millier de personnes venues à pied, en vélo, en bateau, et qui s'est achevée sur l'île Simon, une île au milieu de la Loire qui traverse la ville, avec une série de prises de parole des organisations de l'événement, à commencer par des membres de la Confédération Paysanne.
Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Nous, c'est la Confédération Paysanne, du coup. Donc Lulu, Nico, Fred. Tout d'abord, un grand merci à toutes et à tous pour cette joyeuse mobilisation. Ouais, même si les raisons de ce carnaval ne le sont pas forcément. Qui aurait pu prédire que nous, paysans, paysannes, salariés, citoyens, citoyennes, centres sociaux et collectifs militants, se rassemblent pour une même cause? Qui aurait pu prédire que nous, les premiers de cordée, les gueux, les sales connes, pouvaient penser remettre en cause les choix politiques de notre cirque gouvernemental? Certainement pas ces clowns qui pondent des lois qui ne répondent qu'à une logique capitaliste en ne voulant pas penser à ceux qui les subissent. On va vous faire un petit rappel de la loi Duplomb, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans la loi Duplomb, et de ses conséquences du coup. Car c'est bien contre une loi que nous nous retrouvons aujourd'hui, la fameuse loi Duplomb 2, un mauvais remake de la 1, mais qui rentre cette fois-ci par la grande porte en étant inscrite dans la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole. Quel joli nom pour un contenu vide de sens. Sous couvert de concurrence déloyale avec des paysans et des paysannes de l'Europe, il faut baisser les normes, réduire les contraintes et donc réintroduire des pesticides interdits tels que l'acétamipride et le flupyradifurone, dont on connaît les effets délétères sur le vivant, humain, faune, flore et eau. Il y aura des dérogations données pour telle ou telle raison afin de faciliter son utilisation. C'est la boîte de Pandore qu'on ouvre. L'accélération des méga-bassines, car les projets de stockage d'eau vont devenir d'intérêt général, mais sans consultation publique, en limitant les possibilités de recours juridique. Et donc, si jamais on manifeste, on pourra peut-être se faire enfermer. Mais on continuera quand même.
Toujours dans la loi Duplomb, l'augmentation de la taille des élevages en relevant le seuil à partir desquels ces élevages doivent réaliser une procédure d'évaluation environnementale et être enregistrés comme installation classée de protection de l'environnement. Il est fait en sorte que ces exploitations agricoles de taille industrielle peuvent échapper à ces contrôles. Il s'agit de demandes de la filière d'élevage de FNSEA qui ne concerne que 3% des exploitations mais où sont 60% des animaux. L'affaiblissement de la police de l'environnement. L'Office français de la biodiversité passe de la tutelle du ministère de l'Agriculture à celle de la tutelle directe du préfet et de la police administrative et du procureur de la République pour le judiciaire, ce qui pourrait réduire l'indépendance et l'efficacité des contrôles environnementaux. Le fait que l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, perde son indépendance pour le contrôle des pesticides avant la mise sur le marché, mais qu'elle soit chapeautée par le ministère de l'Agriculture. Nous traversons pourtant de nombreuses crises structurelles qui appellent à agir. Garantir le revenu est une priorité qui doit engager une politique volontariste de régulation et de protection. La crise laitière qui commence actuellement exprime concrètement la nécessité d'agir sur les volumes de production et la construction des prix. La crise énergétique et le choc pétrolier que subit le secteur agricole nous rappellent l'urgence d'engager des politiques qui nous orientent vers plus de robustesse et d'indépendance des filières vis-à-vis de la pétrochimie. Le dérèglement climatique nous rappelle également l'urgence d'une transition agroécologique. Si l'ambition du projet de loi est plus que tiède quant aux réponses apportées aux paysans et paysannes, elle est en revanche très incisive dans sa volonté de poursuivre un schéma productiviste qui ne cesse de faire disparaître les fermes et d'impacter l'environnement, la santé des citoyens et des citoyennes et de fragiliser notre souveraineté alimentaire. Pour appuyer cette volonté non dissimulée, il est choquant de constater le recours assez systématique aux ordonnances concernant ainsi les processus démocratiques et mettant à l'écart les citoyens et les citoyennes. C'est ce qu'ils veulent faire pour les bassines. Plus de réunions publiques pour aller plus vite et orienter encore un peu plus. Les possibilités de dérogation particulièrement graves sont instaurées pour contourner la protection de la ressource en eau, au-delà des saupoudrages des mesures destinées, comme doit l'imaginer le gouvernement, à calmer les revendications des uns et des autres. La véritable ambition de ce projet de loi d'urgence agricole est de poursuivre une trajectoire qui autorise une minorité à s'accaparer les ressources en eau. Nous rappelons que la souveraineté alimentaire est précisément la capacité donnée aux populations de choisir leur agriculture et leur alimentation.
Alors nous, à la Confédération Paysanne, on propose autre chose. C'est l'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, c'est quoi? C'est produire pour nourrir et pas produire pour produire. La démarche de l'agriculture paysanne est transversale. Elle repose sur l'interaction de nombreux éléments. L'agriculture paysanne veut répartir équitablement les volumes de production. Dégager un revenu suffisant sur une surface et une taille d'atelier raisonnable pour permettre à d'autres agriculteurs de travailler. L'agriculture paysanne permet de développer la qualité et le goût de la production agricole. La nature est le principal capital des paysans. L'agriculture paysanne permet de développer l'autonomie des fermes en limitant les achats des semences et des aliments pour les animaux. L'agriculture paysanne donne les moyens aux paysans pour transmettre leurs fermes aux nouvelles générations, limiter les agrandissements et les investissements qui seraient trop lourds au moment de la reprise. Développement local, il participe au réseau local de partage agricole, il s'investit dans la vie citoyenne.
Il, c'est le paysan, et vous la paysanne.
Comment on peut mobiliser les citoyens?
Et les citoyennes.
Alors solliciter les élus. Soutenir l'agriculture paysanne, c'est acheter bio, consommer ses produits. Changement de modèle possible seulement, tous ensemble, convergence avec les luttes de salariés. Installez-vous comme paysan. Là, c'est vachement bien.
Ouais.
Rejoignez les AMAP, montez des AMAP et parlez politique dans les AMAP.
Ouais.
Et surtout, parlez politique, en fait. Faites de la politique, syndicalisez-vous. Et surtout, faites le lien avec les écoles. Il faut que nos enfants soient tous mobilisés aussi. Il faut qu'ils mangent bien.
Malgré le mépris du gouvernement, malgré le recul des lois environnementales, malgré la montée du fascisme, la Confédération paysanne continuera de défendre le droit à une alimentation de qualité pour toutes et tous, car l'alimentation est politique. Nous défendrons toujours l'eau, qui est un bien commun, le vivant, afin que chacun et chacune puisse vivre dans un environnement sain. Nous militerons toujours pour plus de justice sociale et le droit de pouvoir vivre dignement. Nous ne sommes rien les uns sans les autres. Nous sommes forts ensemble, collectivement. Restons solidaires dans la joie pour les nombreux combats à venir. On lâche rien ! Siamo tutti antifascisti ! Siamo tutti antifascisti !
On se parle à deux minutes des amis de la Confédération paysanne.
Bonjour. On est complètement d'accord à tout ce qui a été dit avant. En fait, on est une association citoyenne engagée et citoyenne engagée, non paysan, non paysanne, et on soutient l'agriculture paysanne comme modèle capable d'assurer une alimentation choisie de qualité pour toutes et tous. de garantir un revenu décent aux paysans et paysannes et aux producteurs en général, et proposer un système d'alimentation qui préserve et les territoires vivants et qui lutte contre le dérèglement climatique et qui protège la biodiversité. C'est un peu ça l'idée que portent les Amis de la Conf. Donc on se reconnaît tout à fait dans les valeurs de la Confédération paysanne, dans ses actions, dans ses revendications. Et si nous ne sommes pas paysans, nous sommes tous citoyens et citoyennes, parents, soignants. Et la santé de tous et tous nous importe. La santé, ça passe par une alimentation sans pesticides, par un air respirable, pas toxique. Donc animés par cette volonté de changement, nous, citoyennes, citoyens, voulons contribuer à promouvoir la mise en place généralisée de ce modèle agricole. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes d'accord avec cette démarche. Les amis, on a besoin de vous.
Alex, co-organisateur de ce carnaval.
On passe le micro à l'un des organisateurs du carnaval, également membre de divers collectifs comme Bassine Non Merci ou les Soulèvements de la Terre.
Carnaval ! Nous sommes carnaval ! Vous êtes carnaval, nous sommes tous carnaval, et c'est ça qui est super. Et pourquoi est-ce qu'on fait la fête ? Parce que l'heure est grave. Heureusement, on fait la fête. Parce que l'heure est grave, en fait, parce que qu'est-ce qui se passe avec la loi d'urgence agricole ? C'est la merde. Tout est interdit, mais c'est pas grave, on va le mettre dans la loi, comme ça, ça sera autorisé. En gros, c'est ça l'histoire. Jusque-là, t'avais pas le droit, mais maintenant t'as le droit. C'est ça l'histoire du gouvernement Le Cornu, c'est ça l'histoire de la FNSEA qui tient la main du gouvernement Le Cornu, qui tient la main du ministère de l'Agriculture et qui nous enfume. Carnaval !
Ouais !
Non, parce qu'on est là pour faire la fête. Hein. Carnaval !
Ouais !
Eh ben, on recommencera, parce que c'était une première, c'est magnifique, c'est super. Pff, je m'y attendais vraiment pas. Hein. C'est un énorme boulot qui a été fait là pour organiser tout ça. On va le refaire parce qu'on est vachement en composition là tous, quoi. Moi, j'ai des casquettes, Cépante, BNM, Faucheur Volontaire. Hein. Vous avez tous des casquettes, vous êtes tous bénévoles dans tout un tas de structures et vous portez tout un tas de messages avec des casquettes différentes. Eh bien, tout ça, c'est des gens qui sont en composition. On est tous en composition. Une composition, c'est quoi ? C'est, il y a un groupe, là, il fait ce boulot-là, là, mais il y a une limite. OK ? Il y a un autre groupe, il fait ce boulot-là, là, mais il y a une limite. Et donc, on reprend le boulot de l'un pour pouvoir le poursuivre. C'est ça, l'idée. Donc, très prochainement, à nouveau, carnaval !
Ben, je passe la parole maintenant à Caro du collectif Cancer Colère.
Bonjour à tous, je m'appelle Caroline, j'ai 43 ans. Et après 2 ans d'errance médicale et de « c'est le stress madame, prenez un ton antidépresseur », on m'a diagnostiqué un cancer du pancréas, c'était le 15 janvier 2025. J'ai eu de la chance de pouvoir être opérée, j'ai traversé 6 mois de chimiothérapie, dont je garde des séquelles parce que c'est long, c'est très très long. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'étendre sur mon parcours, même si je sais bien que nous, Cancer Colère, nous sommes là pour témoigner, pour montrer nos visages, pour dire que derrière les études et les discours, il y a une réalité glaçante. Je pense à Elisabeth. Elisabeth venait de rejoindre Cancer Colère, elle nous a quittés il y a 10 jours. Elisabeth n'est pas seule. Dans un si jeune collectif, nous comptons déjà de nombreuses familles endeuillées, de camarades partis trop tôt d'une maladie qu'elle n'aurait pas dû avoir. Aujourd'hui donc, plus que jamais, je suis en colère. En colère parce que depuis 60 ans, on sait. Toutes les études de tous les instituts et centres de recherche ne font que le confirmer. Même le Conseil de l'Ordre des médecins dit que le doute n'est plus possible. En colère parce que ceux qui devraient nous protéger font le choix cynique de défendre un modèle économique délirant et mortifère en sacrifiant la santé publique. En colère parce que des enfants naissent malades, contaminés. En colère parce que les services d'oncologie pédiatrique sont surchargés et qu'il n'existe même pas de traitement adapté aux maladies des enfants, parce que ce ne serait pas rentable à produire, évidemment. Pour nous, en revanche, il y a ce qu'il faut. Des industriels mettent sur le marché des produits chimiques, autorisés ou non d'ailleurs, des produits qui rendent malades, et les mêmes industriels produisent les traitements, fixent leurs prix et se les font payer. Par qui ? Par la solidarité nationale. En 2021, 5,9 milliards d'euros étaient versés aux laboratoires privés pour l'achat des médicaments anticancéreux. En 2023, c'est plus de 27 milliards d'euros qui étaient dépensés par l'assurance maladie pour traiter le cancer. C'est le premier poste de santé. Ce coût a doublé en 4 ans. Il augmente de 20% chaque année. Et ne prend pas en compte, bien sûr, les nombreuses autres maladies chroniques concernées, comme la sclérose en plaques ou l'endométriose, par exemple.
Et pourtant, sans la moindre honte, nos décideurs culpabilisent les malades et s'attaquent aux dispositifs d'aide pour les affections longue durée. Et c'est pas fini. En colère, je disais. Parce que les paysannes et les paysans qui font tout pour endiguer cette épidémie sont invisibilisés, discrédités, empêchés. Et elles demandent des revenus dignes, on leur donne des pesticides. En colère de voir le cadmium coloniser nos corps, nos terres et celles des pays du Sud, alors que tant d'alternatives non coûteuses existent. Je cite le cadmium, je pourrais en citer bien d'autres, mais comme pour une fois c'est d'actualité, je vais me permettre une petite digression. Parenthèse cadmium de Caroline qui a un cancer du pancréas. Donc je parle bien sûr de la proposition de loi qui vise à nous protéger de cette substance cancérogène qui risque de ne pas être débattue parce qu'elle a été sabotée par une grosse partie du centre et par l'ensemble de la droite et de l'extrême droite. Il n'est pas trop tard pour faire pression, vous l'avez sans doute vu, il y a une pétition qui est en ligne, je sais, encore une pétition, désolé, signée, partagée, la pétition, elle est sur le site de l'Assemblée nationale contre le cadmium et les cancers qui vont avec. Je suis donc en colère aussi, parce qu'il n'y a pas que la loi du plomb. Il y a la loi d'urgence agricole, on en parlait à l'instant, il y a aussi Omnibus, le paquet de lois Omnibus. C'est un système à bout de souffle qui voit l'être humain s'autodétruire. C'est une sinistre fuite en avant. Dans ces textes, il n'est pas seulement question du droit d'empoisonner l'eau ou les sols. Ces textes posent des cadres de régression bien plus graves. C'est le déni de la science. C'est la mise en cause des instances démocratiques. Et c'est la criminalisation des lanceurs d'alerte. Je suis en colère enfin, parce que je suis maman, et que je vois venir un moment de bascule. Mais cette colère, dans le collectif, c'est une énergie porteuse, constructive et même joyeuse. Aujourd'hui, ils méprisent les malades et les familles de malades. Ils disent que nous sommes des hystériques, des robots, qu'on cherche à faire le buzz avec des enfants malades. Eh bien, soit, je vous propose, nous allons faire le buzz, là, tous ensemble. Parce que nous sommes nombreux et nombreuses à nous battre pour défendre le vivant et nous allons le faire savoir. Alors, à tous les Duplon, Macron, Le Cornu, Genevard, Rist. Alors vous ne savez pas qui c'est Rist, hein, c'est normal, personne ne sait qui c'est la ministre de la Santé, elle est hyper bien planquée. On a envie de la sortir de sa cachette, donc retenez bien son nom, Stéphanie Rist. Il y a Darmanin aussi que j'ai envie de citer. Et une mention spéciale pour Sandra Marceau, députée de Charente. Donc vous en avez marre de nous entendre, mesdames et messieurs, eh bien va falloir s'y habituer, parce que ce n'est que le début.
Caro de Cancer Colère, on va la retrouver en seconde partie d'émission, mais pour l'heure, pause musicale de circonstance dans ce reportage sur ce carnaval anti-loi du plomb, anti-agro-industrie, anti-pesticide, anti-OGM, avec justement l'OGM man de la chanson du dimanche.
Tu fais de l'eau qui ne mouille pas, tu fais des femmes qui ne meurent pas, tu fais des hommes qui ne meurent pas, non plus tu fais des gosses qui ne pleurent pas.
Tu fais du feu qui ne brûle pas, tu fais des vieux qui ne sentent pas,
tu fais des jeunes qui ne boivent pas,
tu fais quelques erreurs parfois. Oh yeah, man, oh, j'ai mal au secours.
Ils ont fait des carottes qui s'épluchent à la main plus vite que des bananes.
Ils ont fait des brugnons avec du sopalin plié dans le noyau.
Ils ont fait des patates familiales qui pèsent 40 kilos.
Avec du ketchup dedans,
avec du ketchup dedans.
Wow, Roger Man, wow, Roger Man, wow, Roger Man, wow, Roger Man.
Tu fais des œufs en chocolat, tu fais des canards au foie gras.
Tu fais des phoques avec des poches et des moutons en laine velcro.
Tu fais du porc à la cachère, des crocodiles en bandoulière.
Tu fais des requins tournevis,
tu fais des vaches qui font la bière.
Oh yeah, man, oh, j'ai mal au secours.
Ils ont fait des carottes qui s'épluchent à la main plus vite que des bananes.
Oh yeah, man, oh, j'ai mal au secours.
Ils ont fait des brugnons,
amène du sopalin plié dans le noyau.
Ils ont fait des patates familiales qui pèsent 40 kilos.
Avec du ketchup dedans,
avec du ketchup dedans.
Venu d'une loin
raté une galaxie, Ojeman a traversé tout l'univers pour sauver la planète bleue d'une mutation légumineuse. Ojeman défiera tous les méchants pour faire revivre les germes, le mildiou, les fongiques, les doryphores, la gangrène, la phytophthora.
Il nous manque les deux Gus de la chanson du dimanche qui ont sévi au cours des années 2010. Retour maintenant sur les prises de parole qui ont clos le carnaval anti-Duplon du dimanche 26 avril 2026, 40 ans jour pour jour après la catastrophe de Tchernobyl, comme on le verra tout à l'heure. Mais à présent, on va parler du sinistre chlordécone, poison qui tue à petit feu les populations des Antilles, Martinique et Guadeloupe.
Je vais passer la parole à Ghislain d'un collectif qui lutte sur les questions du chlordécone.
Bonjour tout le monde, bravo pour la mobilisation, c'est très très important. Pourquoi je suis là ici en tant que représentant de certains collectifs en Guadeloupe, en Martinique, l'association Vivre, l'association Lienage en Martinique. Le chlordécone, le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est une molécule qui avait été interdite dans les années 60 aux États-Unis. Elle avait aussi été interdite en France. Puis il y a eu une dérogation spéciale à l'époque, autour des années 1972-73. Pour le rappeler, le ministre de l'Agriculture à l'époque était Jacques Chirac. Donc cette molécule a été réintroduite. Quand c'est interdit, on passe une loi et puis on réutilise les mêmes molécules. Il suffit juste de changer le nom et puis ça revient sur le marché. Et ce qui s'est passé, c'est que cette molécule ayant été réautorisée par une dérogation spéciale a été utilisée sur les cultures... En Guadeloupe, en Martinique, ils disaient officiellement que c'était pour lutter contre le charançon. Les conséquences ont été dramatiques puisque ça a été utilisé jusqu'au début des années 2000. Et aujourd'hui, on sait que les études le démontrent. Il y a Malcolm Ferdinand, que vous connaissez peut-être, qui a beaucoup travaillé dessus, qui est un chercheur. Les sols, les eaux et les mers sont contaminés de 300 ans à plus de 700 ans. C'est absolument dramatique. Et aujourd'hui, en Guadeloupe et en Martinique, les populations sont contaminées à plus de 90%, 92-93%. Donc ça veut dire des cancers du sein, de la prostate, etc., etc. Donc l'eau du robinet est contaminée, donc c'est absolument dramatique. Donc le lien avec ce qui se passe ici, avec cette fameuse loi-là, la loi du plomb, où on se mobilise aujourd'hui pour qu'elle ne passe pas, ou... c'est qu'il y a déjà eu des précédents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réintroduit des pesticides qui ont déjà causé du tort, eh bien, on a un exemple très précis avec le chlordécone de ce qui s'est déjà passé, en fait. De quelque chose qui est interdit, qu'on réintroduit, et qui crée des torts, qui crée des cancers, qui crée des malformations, qui crée, avec plus de 92% de personnes aujourd'hui qui sont contaminées. C'est pour cela que, lorsque nous avons été contactés pour pouvoir apporter notre soutien, on n'a même pas hésité, parce que ça va de soi. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est... Eh bien, c'est les valeurs que nous partageons, c'est qu'est-ce que nous voulons aussi transmettre aussi aux enfants. Je vois qu'il y a des familles qui sont là avec leurs enfants, moi je suis venu avec les miens aussi. C'est qu'est-ce qu'on veut transmettre en fait. Donc quand on parle des sols, des eaux et des mers, il y a tous les enjeux de santé publique. Simplement pour terminer, c'est important de se mobiliser justement pour ce type d'action. L'enjeu c'est toujours l'impact. En ce qui me concerne, c'est aussi très important l'enjeu de la transmission. Donc quelles sont les formes de mobilisation que nous mettons en place, qu'elles soient fluides mais radicales. Et donc je voudrais terminer là-dessus. Qu'est-ce que nous avons fait avec ces associations? Eh bien, nous avons porté plainte contre l'État, tout simplement. Donc nous avons fait une action contre l'État. C'est pour dire que c'est possible, même si on sait qu'en principe l'État n'est jamais condamné. Alors il y a eu plusieurs actions. Il y a eu des actions au pénal au début des années 2000. Donc un ensemble de collectifs s'était mobilisé en Guadeloupe et en Martinique. Il faut savoir que jusqu'en 2016-2017, il ne s'est absolument rien passé. Et ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait une seconde action en justice en 2019-2020 avec 5-6 collectifs, avec plus de 2000 personnes. Je pense qu'on peut les applaudir, ces 2000 personnes. Parce que l'enjeu, c'est toujours de se mobiliser. C'est ça qui est le plus difficile, c'est de mobiliser les gens. Donc cette action est toujours en cours, puisque voilà... il faut passer par les différentes strates. Aujourd'hui, je pense au Conseil d'État. Mais voilà, c'est ça l'enjeu. C'est comment est-ce qu'on se mobilise, quel est l'impact et qu'est-ce que nous voulons transmettre. Aujourd'hui, en Guadeloupe et en Martinique, les populations sont contraintes aux cultures hors sol. Qui dit culture hors sol dit que l'agriculture n'est pas consommable, en fait, tout simplement. C'est contaminé. Les populations sont contraintes d'aller consommer, on ne va pas faire de dessin, dans les grandes surfaces. On peut parler aussi du coût de la vie qui, en Guadeloupe et Martinique, est hyper cher. Donc voilà, donc c'est important de se mobiliser ici aujourd'hui. Important aussi de rappeler que les formes de mobilisation sont très très importantes pour qu'il y ait un maximum d'impact. Merci.
Je vais passer la parole à Niuma du collectif Association Naya et à Romain de la Confédération Paysanne. La Confédération Paysanne a dit pour soutenir, il faut essayer de manger bio, manger des produits paysans. Mais on sait que ce n'est pas possible pour tout le monde, dans toutes les bourses, il y a plein de freins. Et du coup, c'est aussi une lutte collective. Nous, depuis quelques années, on a lutté sur cette question-là avec l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation. Et on a essayé de tester des trucs et c'est ça que Niuma et Romain vont essayer de vous raconter un peu.
Merci Paul. Moi, je suis Niuma, je suis de Saint-Pierre-des-Corps, à côté de Tours. Je suis fondatrice d'une association qui est à Saint-Pierre-des-Corps, qui s'appelle Naya, qui accueille tout public sur toute problématique humaine. Notre rêve s'est réalisé quand la Confédération paysanne est arrivée sur nos publics les plus précaires, sur nos publics qui avaient besoin d'une alimentation saine, qu'ils avaient besoin d'être accompagnés sur l'agriculture française, parce que dans notre association, il y a une diversité de cultures du monde entier, et ça, on est fiers. Du coup, on remercie les soulèvements de la terre, on remercie toutes les associations, les paysans, les agriculteurs et les agricultrices, bien sûr, parce que nous, les femmes, on est toujours en avant. Et d'ailleurs, Naya, c'est une association où il y a 80% de femmes et 20% d'hommes, de toute nationalité, de toute culture, de toute tradition. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, on se ressemble beaucoup avec les paysans, les agriculteurs, parce que on aime faire la fête, on aime manger bien, on aime cultiver aussi bien. Pour ça, on se ressemble. Donc, merci les paysans et les agricultrices et paysannes.
Romain, de la Confédération Paysanne, partenaire de cette association Naya.
On n'a pas à respecter une assignation à être chacun dans nos quartiers, que ce soit dans la ruralité ou dans la ville, quoi. Et c'est ça qu'on fait aussi à travers ce projet, c'est se rencontrer, voir qu'on a du commun, alors qu'on voudrait surtout pas qu'on se rencontre. Et c'est ça qu'on fait avec le sujet de l'alimentation. Tiens, il y a Bernard Charest ici, la première fois que j'ai entendu ce terme-là, c'est lui qui l'a dit. Nous ne sommes que ce que nous mangeons, quoi. Donc parlons-en. Et parlons-en avec des gens qui sont parfois éloignés de nous dans la vie. Ça aide à faire des perspectives communes. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport au collègue qui est intervenu sur le chlordécone et le colonialisme chimique, évidemment qu'il faut attaquer l'État. Et nous, en tant que syndicalistes, on se bat pour ça tout le temps. Mais il y a aussi des hommes et des femmes qui sont derrière. C'est vraiment le système du colonialisme. La problématique pesticide, c'est vraiment une question colonialiste. Et nous, quand on a nos collègues qui sont dans les DROM, puisque donc on est syndicat et qu'on a nos homologues là-bas qui nous racontent comment ça se passe, et que c'est de l'histoire de France, c'est les béquets, c'est la famille Hayat, tout ça, c'est la continuité de l'État colonial qui est aujourd'hui soutenue par la politique agricole commune et la culture de la banane et de la canne, etc. C'est de là que ça vient tout ça aussi. Et si je disais ça, c'est que, y a des hommes et des femmes qui sont responsables de ça, mais la solution, ça sera nous, faut pas l'attendre du gouvernement, faut pas. Et donc, c'est ce qu'on fait ensemble avec ces femmes des quartiers, on peut dire, quoi. Et c'est ça que je venais dire, c'est partageons ensemble, n'attendons rien des autres, quoi, et faisons-le. C'est ça aussi le syndicalisme, l'autogestion et l'auto-organisation, et c'est ça qu'on fait aujourd'hui.
On est aux 40 ans de Tchernobyl, et il y avait une mobilisation qui n'a pas eu lieu parce qu'il y avait ce carnaval, et les personnes ont rejoint ce carnaval. Et du coup, un petit mot sur cette question, les 40 ans de Tchernobyl et le nucléaire.
Merci. Je pense que quand même, il y en a beaucoup qui ont moins de 40 ans ici. Or, le 26 avril 1986, dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, survient lors d'un essai technique l'explosion d'un réacteur qui provoque un gigantesque incendie. Les nombreuses conséquences néfastes, les morts, les maladies graves, de personnes dans un rayon de 30 km autour de la centrale, la pollution des sols, de l'air et de l'eau, sont constatées par plusieurs études scientifiques. Ces impacts sont observés hors des frontières. Un taux de radioactivité dû à Tchernobyl plus élevé est constaté dans certaines régions de France, 40 ans après la catastrophe. Et ça va durer encore longtemps. Mais ce désastre ne suffit pas pour faire reculer les ambitions insensées des pro-nucléaires en France. Près de Chinon, qui a donné déjà beaucoup, à Savigny environ et Beaumont environ, une start-up Nucléo a jeté son dévolu pour construire un mini-réacteur qui utiliserait de l'uranium appauvri et du plutonium produit par le parc nucléaire existant. Ce projet pose, entre autres, le problème de la privatisation du nucléaire, dont le coût est estimé de 3 à 6 milliards. Nucléo a besoin de l'investissement public. Déjà, 20 millions d'euros de nos poches à nous ont été engloutis. Quant à la technologie, le collectif de scientifiques Global Chance alerte. Ces réacteurs ne peuvent être fabriqués dans l'état actuel des connaissances. Pour terminer, pour ce carnaval sans loi du plomb et pour le vivant, savez-vous comment serait refroidi ce réacteur ?
Avec du plomb fondu.
Avec du plomb fondu à plus de 300 degrés. Alors, stop au nucléaire, non au nucléaire, et rejoignez-nous dans cette lutte. Merci.
Ce qu'on voulait dire en mot de conclusion, c'est que pour nous, c'était vraiment une magnifique journée de vous voir tous, toutes, réunis avec nos tracteurs, nos vélos, nos bateaux, notre énergie. Malheureusement, mauvaise nouvelle, je crois qu'une belle journée ne suffira pas à faire tomber le système agro-industriel ce soir. Et donc, c'est qu'il va falloir continuer dans cette lutte. Que là, on voulait rassembler, faire se rencontrer, donner des idées et qu'on avait envie que ça puisse permettre d'aller plus loin, à la fois collectivement, individuellement, mais que ça donne du souffle à cette lutte dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, avec les lois du plomb, lois d'urgence agricole qui arrivent dans les mois qui viennent, en mai-juin, au Parlement. On a préparé un tract. Ces tracts, ils racontent comment, pour lutter contre le système agro-industriel, en fait, il faut une lutte continue, il faut une lutte quotidienne, il faut une diversité de tactiques et faire alliance, il faut des compositions. C'est comme ça que progressivement, on pourra être de plus en plus nombreuses, on pourra faire reculer ce système agro-industriel, trouver notre autonomie, continuer à agir avec toute notre joie et notre énergie.
Dans ce tract, pour répondre à la question, qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle pour lutter contre le système agro-industriel, pour une société plus juste, plus saine ? Et peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes moyens et on n'a pas tous les mêmes disponibilités et qu'on n'a pas tous le même espoir de faire changer les choses ou la même volonté d'être dans le souffle qui pourrait ralentir la progression de système agro-industriel qui dévore tout. Et donc on a listé des exemples d'actions simples qui pourraient être à la portée de beaucoup de personnes. Le premier masque qui parle de « je peux agir parce que j'ai soit du temps, soit de l'argent, soit des compétences que je peux partager ». On peut simplement aller aider les agriculteurs, les agricultrices qui sont impliqués pour une agriculture paysanne qui demande plus de temps humain et aller planter des haies avec eux, participer aux récoltes, participer au travail. On peut proposer ses compétences, quelles qu'elles soient, aux associations qu'on souhaite soutenir. On peut aussi se rendre sur le terrain, dans les manifs. Et aussi, si vous avez de l'argent, même un peu, vous pouvez investir, donner, prêter de l'argent dans les luttes qui vous touchent. Le deuxième masque, il parle de capacité en termes des choix quotidiens. On parlait de l'alimentation tout à l'heure. Ça peut être accessible d'aller acheter son alimentation chez les producteurs ou dans les commerces qui favorisent les circuits courts, par exemple. Et aussi dans ses choix d'activité, dans ses choix de sortie, dans des choix de vacances, des choix des week-ends entre copains, on peut orienter les sorties vers des impacts un peu plus positifs. Et enfin, on peut parler de ces sujets autour de nous pour sensibiliser auprès de son entourage et rencontrer les agriculteurs. Quelle que soit leur pratique, d'ailleurs, juste parler avec eux, découvrir leur métier, tisser du lien. Faites-vous votre avis, aimez la ferme. Enfin, tout le monde aimera la ferme, non ? Et le dernier masque parle d'influence. Si vous pensez que vous n'avez pas d'influence dans vos communautés, vous en avez certainement plus que ce que vous pensez à l'école, si vous êtes parent d'élève ou instituteur, institutrice, ou si vous travaillez dans une entreprise, il y a des CE ou des choix qui sont faits pour les cantines, les vacances, pour les team building, les séminaires, enfin tout ça, c'est des choses où vous pouvez exprimer vos opinions et peut-être faire pencher la balance. Et vous pouvez aussi aller chercher vos élus locaux dans vos communes, dans vos communautés de communes, leur parler, les solliciter autrement, écrire, faire des pétitions, signer des pétitions, c'est comme ça qu'on interpelle ces élus. Donc voilà ce que raconte ce tract.
Le maïs OGM est sans danger pour l'homme, et les gens que ça gêne n'ont qu'à manger des pommes. Je l'ai testé moi-même, oui je peux le prouver. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Ouais. Tu dis que mon maïs est bêta, alors que c'est toi les bêtés. Tu dis que mon maïs marche pas, mais l'essayer, c'est l'adopter. La preuve, au beau milieu d'un champ, j'ai rencontré un papillon qui récitait en titubant un petit message d'information. Le maïs OGM est sans danger pour l'homme, et les gens que ça gêne n'ont qu'à manger des pommes. Je l'ai testé moi-même, oui je peux le prouver. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Ouais! Pour une fois qu'un truc est total, non sélectif et efficace, toi, il faut encore que tu râles, tout ça pour faire des tortillas. Alors qu'au beau milieu d'un champ, une mauvaise herbe repentie me confiait d'un air confiant, c'est bon de faner pour sa patrie. Le maïs OGM est sans danger pour l'homme, et les gens que ça gêne n'ont qu'à manger des pommes. Je l'ai testé moi-même, oui je peux le prouver. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Ouais. Completely safe for consumer, nothing to worry about. Y'a pas péril en la demeure, je comprends pas pourquoi tu doutes. Alors qu'au beau milieu d'un champ, j'ai rencontré un ver de terre qui chantait en agonisant un petit message publicitaire. Le maïs OGM est sans danger pour l'homme, et les gens que ça gêne n'ont qu'à manger des pommes. Je l'ai testé moi-même, oui, je peux le prouver. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Le maïs OGM, c'est bon pour la santé. Ouais.
Le maïs OGM par la Parisienne Libérée, titre qu'on vous a beaucoup joué pendant les années 2010, avant de revenir à ce carnaval antillois du plomb du dimanche 26 avril 2026, et avant de retrouver Caro du collectif Cancer Colère, que vous aurez aussi souvent entendu dans cette émission.
Bonjour Caro.
Bonjour JB.
Quelle belle journée que ce dimanche 26 avril, carnaval, un peu estomaqué par le monde, hein. Je crois qu'on était un très gros millier, non ?
Et on était extrêmement nombreux dans un contexte incroyable, il faisait beau. J'étais dans le cortège piéton et j'ai pas réussi à avoir de recul sur le cortège piéton tellement j'avais des discussions chouettes avec plein de gens. Et en plus, j'avais oublié pendant le cortège tellement j'étais occupée à papoter les autres cortèges. Et quand on est arrivé sur le pont et que j'ai vu tous les vélos et les tracteurs arriver, rien que vélos, ils étaient une centaine. Donc si on rajoute les piétons, les tracteurs et les bateaux, je ne sais pas. Mais c'était dingue pour une première et waouh.
Qu'est-ce qu'ils sont venus te dire, les gens qui sont venus te dire des trucs ? Déjà, il n'y a pas d'antenne cancer colère en Indre-et-Loire.
Pas encore, et justement, ça a servi à ça, notamment aujourd'hui, c'est que dans les gens qui sont venus me parler, il y en a pas mal qui sont venus me dire bah, « je suis du 37, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'antenne et j'aimerais bien qu'il y en ait une. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y en ait une ?» Après, il y a des gens toujours un peu pudiques qui viennent prendre un tract avec un sourire un peu pudique. Ça arrive très souvent, on sent que c'est chargé, que ça leur parle, mais que c'est pas le moment forcément discuter, c'est pas grave, ça laisse un support, mais on pense que c'est des gens qui potentiellement peuvent revenir vers nous. J'ai beaucoup discuté avec une soignante à la retraite qui m'a dit j'en peux plus. Elle m'a dit j'étais soignante, mais dit là de toute façon je pouvais plus faire ce travail là. Tout ce que j'ai vu, l'épidémie, vraiment l'explosion de l'épidémie qui est en parallèle avec la destruction de l'hôpital. C'est plus possible de travailler, ça met en colère. Et ce qu'elle m'a dit, elle m'avait montré le tract en me disant « Moi, cette colère, je la comprends, je la ressens tout à fait. » J'ai eu aussi des gens de cancer colère des autres départements que j'ai rencontrés pour la première fois. C'était chouette aussi.
Donc 44, 72...
28. 28. Ouais, on m'a parlé de la Mayenne aussi, qui était dans la boucle, qui a failli passer, mais qui n'a pas pu. Et donc des gens ouais, à qui j'échange depuis un moment, parce qu'on travaille sur les réseaux, parce qu'on est éloignés. Mais
c'est cool de se voir en vrai.
Mais c'est ça, c'était le moment de se voir en vrai, de se prendre dans les bras. Hein, et ouais, c'est des moments chouettes.
Est-ce qu'il y a aussi eu des personnes, parce que ça, tu dis ça t'arrive tout le temps, qui sont venues te voir en disant « Moi aussi, je connais un oncle, une grand-mère, un cousin, un ami. »
Alors malheureusement, oui, c'est presque le plus fréquent. Du coup, j'ai peut-être même oublié de le dire parce qu'en fait, c'est tellement souvent, c'est tellement tout le temps.
C'est ça qui est toujours effrayant, en fait, c'est de constater qu'il n'y a pas une personne qui ne peut pas dire autour de moi, quelqu'un est malade. Et je rappelle que le cancer colère ne parle pas que des malades du cancer. L'épidémie de maladies qui sont provoquées par les industriels de la chimie et de l'agriculture, ça concerne aussi les scléroses en plaques, ça concerne aussi Parkinson, ça concerne aussi des leucémies, ça concerne, quand je parle de leucémie, je parle aussi d'enfants, de bébés qui naissent malades, d'enfants qui tombent malades, et que toutes ces maladies-là ont un lien avec l'empoisonnement chimique.
Je suis contente de retomber sur toi aussi aujourd'hui, parce que je voulais te remercier, et remercier le collectif Cancer Colère par ta personne. Mais il y a ce truc cognitif un peu, enfin Rachel Carlson nous disait d'empruntant silencieux déjà dans les années 60, et tout autour de nous, là je pense notamment à trois personnes assez proches, des copines, des copaines, voilà, trois d'un coup en 2023, si je me souviens bien, ou 24, je sais plus, enfin de toute façon ça s'enchaîne, et je voulais te remercier parce que tu m'as aidé à me mettre les yeux en face des trous, et tu le dis très bien dans la précédente conversation qu'on a eue, donc c'était pour les 3 ans de Sainte-Soline, organisée par Bastien Montmercy fin mars, à Mel, tu m'as aidé à comprendre ce que j'avais déjà compris ou ce que j'avais pas envie de comprendre, et peut-être à regarder vraiment les choses en face. Enfin, et tu le disais très bien dans l'émission, c'est que nos cerveaux, ils sont pas conçus forcément pour concevoir des énormités criminelles. C'est bien de ça. En fait, ils sont en train de nous empoisonner. Et j'arrête pas de penser et d'en parler avec des gens, avec mes parents, avec des amis, voilà. Et tu parlais dans l'émission aussi des lunettes du genre. Des fois, quand on prend conscience de certaines réalités, et je suis encore loin du compte, mais c'est vrai que quand tu commences à chausser des lunettes, alors là, des lunettes des trucs acides, bah finalement, tu vois plus que par ça, et te dire, mais en fait, c'est partout. Et là, ce dont tu nous parlais lors de notre précédente conversation, c'était pas de la planète Mars ou du fin fond de la galaxie. En fait, c'est nos copains, nos amis, nos familles, nous-mêmes. Potentiellement, tiens, je touche cette table en bois pendant que je te parle. Je sais pas si ça va servir à grand chose. Et en tout cas, voilà, merci pour cet effort de pédagogie et d'éclairage.
Bah, moi, j'ai envie de dire évidemment merci à toi, puisque pour qu'on puisse aider justement les personnes comme toi ou n'importe qui d'autre à chausser ses lunettes, ça demande de la pédagogie, de l'information, c'est ce qu'on essaye de faire. Notre rôle à Cancer Colère, c'est de faire de l'information, d'aider les gens à comprendre, et que pour qu'on puisse faire ça, ça demande des gens à l'écoute. Tu m'as permis d'expliquer ça, et que je remercie tous les médias, les journalistes de presse, de radio, vidéo, il y en a aussi, qui sont là pour ça, pour nous offrir cet espace, pour avoir le temps d'expliquer. Il faut expliquer. Ça peut pas être évident, c'est complètement absurde, c'est tellement absurde ce système. Comment on peut imaginer que des gens, les mêmes, sur tous les sujets, produisent des problèmes, offrent les solutions qui vont avec, touchent du pognon sur tout le bout de la chaîne, et qu'à la fin, il y a des morts, et c'est normal, et on a des élus qui sont élus pour nous protéger, des décideurs publics, représentants de la nation, qui sont contents d'appuyer sur des boutons pour voter, pour continuer ce système-là. C'est absurde, on ne peut pas comprendre ça. Parce que on parle de Bayer-Monsanto, c'est pas les seuls. Monsanto-Bayer, qui est la même entreprise qui produit des pesticides et qui produit les médicaments anticancéreux, qui touchent de l'argent sur tout le bout de la chaîne, de l'argent public. Hein.
Pour mémoire, hein, Bayer, c'est ceux qui fabriquaient le Zyklon B,
également,
dont se sont servis les nazis dans l'extermination de tous ces gens qu'ils n'aimaient pas. Et Monsanto, c'est eux, ils fabriquaient l'agent orange, donc un défoliant que les Américains utilisaient comme arme de guerre au Vietnam. Et les deux ont fusionné, c'est formidable, et ils continuent à se faire du pognon sur notre dos.
Et c'est toujours les mêmes. Je pensais à l'eau, qui est un sujet primordial et urgent. Quand on voit le niveau de potabilité de l'eau en France, on n'est pas au tiers-monde. Enfin, on a l'impression d'avoir de l'eau. Enfin, on n'a plus d'eau potable en France. Et quand on a de l'eau potable, pourquoi, comment elle est potable? Parce qu'on la potabilise. Et comment on la potabilise? Avec des filtres qui sont fabriqués par la même entreprise qui fabrique les pesticides qui polluent l'eau. Donc c'est tous ces cycles complètement vicieux, absurdes et mortifères qu'on est obligé de dénoncer et d'expliquer, parce qu'on ne peut pas spontanément se dire que c'est possible et qu'on fait ça. On pourrait se dire, bon ok, ça existe, il y a des industriels en cachette, ils ont fait ça. Mais on va le dire, et puis le gouvernement va dire ah ben stop les gars, on vous a découvert, ce que vous avez fait c'est n'importe quoi, on arrête. Bah non, Là, en fait, on a des élus qui disent, mais c'est très bien et on va continuer et on va vous aider à continuer. Et donc, ça se passe au niveau des pesticides, des cancers, on parlait de Bayer-Monsanto. Et donc, pour l'eau, c'est exactement la même histoire. Et la loi d'urgence agricole qui est en train d'arriver, c'est ce qu'elle continue à faire, de protéger l'accaparement de l'eau et la pollution de l'eau, et qui permet à des entreprises de gagner sur toute la chaîne. En fait, c'est ça qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que, encore une fois, on ne parle pas d'autres gens, c'est qu'en fait, là, le problème de qui paye la facture, c'est les gens qui écoutent cette émission, ce sont les malades, ce sont les précaires, à qui on demande, que ce soit par le biais de la sécurité sociale ou parce que les soins, quand on est malade, on paye plein d'autres choses, c'est eux qui payent à la fin. Quand on demande aux gens de payer le trou de la sécurité sociale, on ne demande pas à Bayer de le faire. On vous demande à vous qui écoutez l'émission de le faire. Et c'est exactement la même chose pour l'eau. Qui paye la facture de dépollution de l'eau? Regardez les factures qui ont augmenté de 16% je crois l'année dernière et qui continuent d'augmenter. On est en train de payer, vous qui écoutez l'émission, êtes en train de payer la facture de la dépollution pour payer les gens qui ont pollué l'eau et qui la dépollutionnent également. Enfin, c'est comme ça sur toute la chaîne, sur tous les sujets.
Je suis tombé sur un écueil plusieurs fois depuis qu'on a discuté, parce qu'en fait j'en ai beaucoup parlé autour de moi, et il y a un écueil qui surgit régulièrement. Alors là, on revient sur ce truc cognitif de comment accepter cette monstruosité et se dire que si, en fait, c'est ça qui se passe. C'est des gens, pas forcément mal intentionnés, qui disent oui, mais les scientifiques n'ont pas encore établi le rapport qu'il y a entre tous ces trucs en cides et les maladies, là, donc cancer, Parkinson, sclérose en plaques aussi. Et t'as des gens en toute bonne foi qui disent oui, mais bon, or, on a parlé, il y a l'ordre du conseil des médecins, etc. Le lien scientifique, tu peux nous le la pédagogie étant l'art de la répétition. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux bien nous reconfirmer que si le lien, il a scientifiquement été établi? Et accessoirement, qu'est-ce que tu as pensé de la prise de parole des deux scientifiques? Il y avait un scientifique en rébellion tout à l'heure et puis un toubib.
Ouais.
Qu'as-tu pensé de leur prise de parole?
Par rapport aux scientifiques, alors l'art de la répétition certes, cependant il s'est passé quelque chose entre nos deux entretiens. L'étude, cofinancée par l'Institut Pasteur, en Amérique du Sud, déjà au départ, ça fait 60 ans que les scientifiques ont compilé, c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Brancolas du CNRS, il dit, depuis 60 ans, on a compilé 30 000 pages d'études qui constatent le lien entre les pesticides et les maladies. Ça paraît évident, mais il dit, nous, ça fait 30 000 pages de compilés depuis des décennies, il dit, qu'est-ce qu'il faut de plus? Après, si les gens ont besoin de détails, on peut aller voir les études de l'INSERM, on peut aller voir les avis du CNRS, on peut aller voir, même ça le confirme, en fait, toutes les instituts et les centres de recherche le constatent. Ce qu'on disait jusqu'à il y a deux semaines, c'est que ce constat ne pouvait pas être une démonstration mécanique parce que ça demanderait des études, de compiler beaucoup trop de choses, qu'il y a l'effet cocktail à prendre en compte et qu'en fait ça demande des calculs qui sont tellement gigantesques. En fait, le lien mécanique de cause à effet était vraiment difficile à montrer, à prouver, et qu'en fait, les industriels s'appuient là-dessus. En fait, ils font dire à ces scientifiques, ce n'est pas prouvé. En fait, ce qu'ils disent les scientifiques, c'est en épidémiologie, quand on dit, on constate, il y a un lien, pour nous, en fait, c'est sûr. Mais alors, la petite blague, c'est que il y a à peu près deux semaines, il y a une étude qui a été faite en Amérique du Sud. Je crois que c'est au Pérou. C'était cofinancé par des scientifiques de là-bas, cofinancé, mené par des scientifiques de là-bas, et de l'Institut Pasteur, me semble-t-il, en France. Ils ont réussi à montrer, là, pour le coup, à prouver mécaniquement le lien entre l'augmentation de cancer, corrélé, enfin, avec l'augmentation de l'utilisation des pesticides là-bas. Et là, en fait, ça pose un truc qui est complètement énorme. Ça va de pair, parce que donc ça, c'était il y a une quinzaine de jours. Et donc là, il y a 2-3 jours, il y a une vingtaine de scientifiques qui a signé une tribune dans une revue scientifique. Les revues scientifiques, c'est pas fait pour faire de la politique. C'est fait pour qu'entre chercheurs, ils publient des recherches. Et voilà, c'est pas du tout fait pour ça. Et là, les gars, ils en ont tellement marre, en fait, qu'on les écoute pas. C'est inédit. C'est la première fois que ça existe. 20 scientifiques qui ont signé une tribune qu'ils ont fait paraître dans la revue, je crois que c'est Science, c'est une revue de chercheurs, quoi. Est-ce qu'ils ont dit stop, quoi? On en a marre, nous, ça fait des dizaines d'années qu'on le dit. Là, c'est trop grave, en fait, ce qui se passe en ce moment. On arrive à un point, non seulement du seuil d'épidémie qui est trop grave, mais surtout au regard des lois qui sont en préparation et qui vont ne faire que non seulement aggraver le problème, mais surtout rendre la prévention impossible. Et discréditer le discours scientifique, et discréditer des instances démocratiques en les contournant. Et ces scientifiques se sont dit stop, et ils ont fait ce truc complètement dingue et inédit de faire paraître ça. Parce que des scientifiques qui se prononcent, on en voit tous les jours. Ils viennent nous voir, ou ils publient dans la presse, mais dans la presse généraliste, pour dire que c'est pas possible de continuer comme ça. Mais là, c'est dans une revue scientifique. Et ça, c'est inédit, et c'est hyper important de le marquer. C'est un tournant. Ça montre qu'on est vraiment dans une impasse et au pied du mur, mais ça montre aussi qu'on n'est pas seul et qu'on va se battre, quoi. Et ton autre question, c'était par rapport à l'intervention d'SER.
Scientifique en rébellion.
C'était super chouette.
C'est ce qu'il a dit. Enfin, le gars qui a mis une blouse blanche en disant « Bon, là, je mets une blouse blanche pour montrer que je suis scientifique. » Il a dit « Mais on nous écoute pas. On en a ras-le-bol de crier dans le désert. »
Exactement. Et en fait, nous, ce qu'on reçoit beaucoup comme témoignage, qu'on reçoit quand même des témoignages de beaucoup de scientifiques, notamment des médecins, mais aussi des chercheurs et notamment du CNRS. Il y en a qui sont connus pour témoigner publiquement, mais il y en a beaucoup qui nous contactent en disant qu'ils ne peuvent pas se permettre de le faire publiquement, d'où le manque que regrettait aussi donc un des camarades de SER tout à l'heure.
SER, scientifique en rébellion.
Scientifique en rébellion, qui disait on aimerait bien avoir plus de blouses blanches ici, mais certains simplement ont peur pour leur poste. Et les chercheurs qui craignent de montrer leur visage, ils n'ont pas peur pour leurs fesses, ils ont peur pour leur recherche, parce que justement leur travail est important. Et qu'en fait, là, on est dans un moment un peu trumpiste, où il y a des chercheurs qui ont peur pour le financement de leurs recherches, qui sont, elles, hyper importantes, et qui donc viennent témoigner et nous soutenir. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent « Continuez, merci, parce que nous, on ne nous écoute pas. On a été obligés de vous voir, vous, malades, vous lever pour porter ce qu'on dit. Mais continuez, et surtout, ne faiblissez pas. » C'est ce qu'on a entendu encore récemment. Et c'est super important. Ça nous rassure s'il le fallait, mais en même temps, on doute toujours, hein, on a toujours besoin de vérifier qu'on ne dit pas de conneries. Hein, parce que... Donc nous, ça nous rassure quand on a ces témoignages-là, et en même temps, c'est complètement flippant de se dire qu'on est à un tournant trumpiste. Trumpiste quand on regarde Omnibus, trumpiste quand on regarde la LUA, et trumpiste quand on entend ces témoignages de scientifiques qui ont peur pour leur crédit recherche.
LUA, donc loi d'urgence agricole, oui. Il nous promet plein d'horreurs. Quitte à prendre le risque de sauter du coq à l'âne. Il y a aussi une chose qui a émergé dans notre dernière conversation et que tu as redite, et je crois qu'il faut marteler, parce que personnellement j'y étais confronté aussi dans des conversations avec des copaines malades, c'est pas de votre faute. Alors oui, si tu fumes 100 000 clopes par jour et que tu bois plein d'alcool et que tu as des conduites à risque, effectivement il peut t'arriver des bricoles. Mais voilà, je pense à une copine particulièrement qui buvait un verre de vin rouge de temps en temps, que j'ai jamais vu bourré depuis, alors que je l'ai fréquenté pendant des années, qui fumait un peu sa clope après bouffer le soir, mais qui faisait une heure de sport tous les jours et machin. Et cette femme, voilà, en pleine forme, ping, cancer du foie. D'oser s'admettre que non, c'est pas la faute à pas de bol, non, c'est pas la fatalité, il y a peut-être d'autres choses. En tout cas, voilà, ça me semble important de dire et de répéter, si vous êtes malade, c'est pas forcément de votre faute.
Non, mais c'est super important dans cette culpabilisation des malades.
Je suis un peu merdeux parce que je fume des clopes, je suis en train de fumer une clope devant toi.
Non, mais ça, c'est pas un problème. En fait, nous, on va jamais dire fumer des clopes et boire de l'alcool, ça me met en bonne santé. En fait, c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est oui, on a plein de témoignages d'expériences de gens qui mangent bien au fond du sport et sont malades. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est même pas le problème. En fait, c'est pas parce que tu fumes et que tu bois que c'est de ta faute non plus. En fait, il ne faut pas culpabiliser les malades. Parce que le problème, quand on tire cette ficelle-là, j'ai lu un truc hier qui m'a un peu paniqué. Ça fait 2 jours que je vois une série de posts sur Facebook de l'Institut Gustave Roussy. Voilà, ils sont connus pour s'occuper du cancer. Et j'étais un peu flippée parce que ils font des posts où ils proposent de faire des quiz pour savoir si on s'y connaît sur les causes du cancer. Alors, il y avait 2 quiz. Il y en avait un, c'était les causes du cancer, et l'autre, c'était sur le truc à faire pour être en bonne santé. Une fois, il est question des pesticides et c'est complètement minoré. Donc, ils parlent un peu de l'amiante. Pour eux, c'est marginal. Ils parlent en fait de la dimension des maladies professionnelles. Et en fait, ils disent que c'est hyper minoritaire, du coup, les maladies professionnelles, et que ça représente quelque chose comme 4% des cancers. Quand ils disent ça, ils ne parlent pas des agriculteurs. Ils ne parlent pas des pesticides. Et moi, je suis tombée de ma chaise. Donc ça, c'était le premier truc, le premier jour, là, sur les causes. Une fois, j'ai vu le mot pesticide, enfin, j'en revenais pas. Je tombe sur un autre hier, et là, qu'est-ce qu'ils disent ? Pour être en bonne santé, donc bon, faut pas fumer, faut pas boire. Bon, après, oui, voilà, on n'a jamais dit que c'était forcément un gage de bonne santé de consommer, et ça, c'est évident, mais c'est pas la question. Ce qu'ils disent, c'est la priorité, c'est de manger 5 fruits et légumes par jour. À aucun moment, ils disent où aller chercher les fruits et les légumes. Et ça, moi, ça me pose question, ça me pose un gros problème, parce que c'est. Ah oui, une fois, j'ai vu le mot bio. Et pareil, le mot bio, c'était pas du tout pour dire qu'il fallait favoriser le bio. C'est qu'il parlait des produits laitiers et disait les produits laitiers bio, c'est bon pour la santé. Ben ouais, ok, mais alors il n'y a pas que les produits laitiers. Et qu'est-ce qu'on fait pour le bio ? Qu'est-ce qu'on fait pour. Enfin, et à aucun moment il n'est question de ça dans le truc. C'est de dire si vous êtes malade, c'est parce que vous n'avez pas mangé assez de fruits et de légumes. Et surtout, on s'en fout de ce que vous mangez comme fruits et légumes. Ben non, on s'en fout pas de ce que vous mangez comme fruits et légumes. Et en fait, c'est toujours individualiser la question. Alors que la question, elle est collective. Le problème, il est collectif. Et que les solutions, elles ne peuvent passer que par le collectif. À la fois dans la lutte, mais aussi dans les réponses qu'on apporte. Et ça, ça dit pas ça du tout. On regarde les posts de Gustave Roussy. Ils disent, si tu veux pas tomber malade, faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et sinon, c'est ta faute. Et puis, aller faire du sport, bien entendu.
Cette émission, est grâce aux radios Copen, passe un peu partout en France. Si dans votre département, il n'y a pas encore d'antenne du collectif Cancer Colère, on fait qu'on a envie d'en monter un, est-ce qu'il faut aller sur le site de Cancer Colère, se signaler en disant bonjour, j'aimerais bien monter un collectif dans mon département ?
C'est exactement ça. Soit on va sur le site de Cancer Colère et on écrit sur l'adresse générale en disant bah voilà, moi je suis à tel endroit, je ne sais pas trop.
Et le site recense déjà tous les collectifs. Alors, qui existent
ça,
dans tous
voilà,
les départements.
Il y a une page où c'est écrit nos antennes. Ça recense et réactualise régulièrement. Il y a des petits points rouges et quand on clique dessus, ça met le contact de chaque antenne. Et donc on peut soit se rapprocher de l'antenne la plus proche, parce que par exemple on peut être à Tours mais aller souvent à Poitiers et se dire bah tiens je vais rentrer en contact avec celle de Poitiers, ou écrire sur l'adresse générale et dans un cas comme dans l'autre on va le recenser, mais il faut pas hésiter à écrire sur l'adresse générale de Cancer Colère, ça tombe pas dans le vide. En fait il y a des gens derrière qui notent et puis qui disent bah tiens il y a tant de personnes dans le 37 qui m'ont contacté. Il suffit d'une personne qui à un moment va se dire j'ai un peu de temps, un peu la niaque, tiens comment je fais. Nous, on va pouvoir lui donner le nom de tous les autres camarades qui ont envie de faire quelque chose. Et en parallèle, bien sûr, on est disponible, les camarades des départements d'à côté ou membres d'équipe, pour être en soutien pour la structuration d'une antenne. On ne laisse pas les gens. Et puis, on a des outils. On a sorti d'ailleurs récemment des super outils en interne pour aider justement les antennes à se structurer.
Il y a des prérequis, enfin on n'a pas besoin d'être forcément scientifique ou malade. Ou,
Alors, le seul prérequis, c'est de partager l'envie de se battre pour le vivant et d'avoir une furieuse envie de vivre comme nous. C'est le seul prérequis, bien entendu. Non, en fait, les gens qui viennent en Cancer Colère, ils viennent de partout. Il y a des gens qui ont des prérequis scientifiques, il y en a, il y a des chercheurs, mais en fait, il y a des gens qui juste sont malades, il y a des gens qui sont pas malades, il y a des gens qui sont déjà des militants, d'autres, c'est la première fois de leur vie qu'ils font une manif, il y a des gens qui sont plus à l'aise dans la lecture ou dans l'écriture, et puis d'autres qui sont plus à l'aise dans l'action. Il y a de tout et on essaie de faire avec tout ça. Alors c'est une grande aventure humaine parce que justement c'est tellement global, ça touche tellement de gens que justement ça mobilise vraiment des gens de tous horizons et c'est super chouette. Alors ouais, c'est un peu sportif parfois de se dire wow, on est tellement tous différents, on vient tellement tous d'endroits différents, bah comment on va faire ? Bah en fait on y arrive parce que chacun a quelque chose à apporter et c'est ça qui est chouette. Voilà.
Et se compléter avec ses différences et ses compétences, ça s'appelle la composition, avec la conscience que tout le monde peut être utile dans une lutte. Comme on l'a vu par exemple au village de l'eau de Bassines, non merci, il y a besoin de gens pour les actions et aussi besoin de gens sur la base arrière. Vous pouvez retrouver ce reportage sur ce carnaval anti-duplomb sur notre site polymixetlavoixoff.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur votre radio toujours libre préférée. Ce n'est qu'un combat, continuons le début, salut !